rendez-vous avec vous, un temps d'antenne animé par Cathy Vanel, qui aime se balader et vous rencontrer. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Anouchka Kokaba est née en 1944 en Allemagne et vit à Bourg depuis une vingtaine d'années. Elle a passé son enfance et sa jeunesse à Saint-Vulbas dans l'Ain, où ses camarades de classe l'appelaient la Boche. Plus tard, on l'a également nommée l'apatride et l'immigrée. Des mots qui n'ont pas manqué de la blesser et n'ont eu de cesse de l'interroger. Qui était-elle vraiment? Pourquoi Nina et Nicolas, ses parents, lui cachaient-ils certains détails de leur passé? N'empêche qu'à force d'insister, Anouchka a fini par obtenir quelques réponses. Bonjour Anouchka.
Bonjour Cathy.
Alors, vous possédez deux prénoms, Anouchka et Agnella. Aujourd'hui, vous m'avez demandé de vous appeler Anouchka. Nous verrons pourquoi au cours de cette émission. Vous aviez 56 ans, aujourd'hui vous en avez 76, lorsque Nina, votre mère, vous a révélé qu'elle n'était pas catholique mais juive et qu'elle n'était pas polonaise mais ukrainienne. Pendant des dizaines d'années, vos parents, comme la très grande majorité des déportés, ont eu une partie de leur passé. Vous leur en avez voulu, mais aujourd'hui, vous comprenez pourquoi ils se sont tus.
Mais d'abord, lorsqu'ils sont immigrés, ils ont eu ce sentiment de peur. La peur dans les camps, la peur lorsqu'ils sont arrivés en France, car surtout à Saint-Vulbas, le curé est venu à vélo, il s'appelait De Boissieux, et ils leur ont fait peur avec le catholicisme, la prière, la confession. Donc la peur a continué et aussi la peur du camp d'Iraton. Ils avaient toujours peur, mais qu'est-ce que les gens vont dire? Ils voulaient toujours être cachés, effacés, voilà.
Se taire après la guerre, ça a été le lot de la plupart des Juifs. Je vous propose d'écouter le neuropsychiatre Boris Cyrulnik s'exprimer en 2012 à l'occasion de la sortie de son livre « Sauve-toi, la vie t'appelle ». Lui aussi était juif, lui aussi s'est tu pendant longtemps. Il explique pourquoi.
Vous citez dans votre livre ce conte de Rabelais qui dit que voilà. Il y a tout un moment où les paroles sont gelées. Et puis, à un moment donné, elle se dégèle. C'est un conte. Mais vous, c'est ce qui s'est passé. Vos paroles se sont dégelées. Qu'est-ce qui s'est construit pendant cette vie?
Elles ont été, pendant la guerre, ils avaient intérêt à être gelées. C'est-à-dire que pendant la guerre, il fallait se taire, il fallait changer de nom. Et avec des phrases qui abîment. Par exemple, une phrase qui m'a fait taire pendant très longtemps, ça a été « Ne dis pas ton nom ». Sinon tu mourras et ceux qui t'aiment mourront à cause de toi. Donc ça m'a fait taire. D'ailleurs, il y a une phrase que j'avais fait un article dans le Nouvel Obs sur la Shoah et j'avais emprunté un titre de Régine Weintraiter. Une des personnes qu'elle interrogeait disait répondez à votre question et on lui demandait pourquoi vous n'avez pas pu parler avant et il disait mais parce que dans les années d'après-guerre les muets parlaient aux sourds.
Voilà, après la guerre, les muets parlaient aux sourds. Et pendant la guerre, cacher son identité juive, c'était augmenter ses chances de survie. En voyant arriver le danger, Nina, votre maman, qui comprenait l'allemand pour l'avoir étudié en Ukraine à l'université, s'est inventé une nouvelle identité en donnant un faux nom, une fausse date et un faux lieu de naissance. Vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles Nina vous a révélé et son vrai nom et sa véritable nationalité?
Oui. J'étais donc à la synagogue des Juifs libéraux à Lyon et il y avait sur la porte un document qui invitait les déportés à se faire dédommager des camps. Donc je vis à Lyon, je pars à Saint-Vulbas. Et je demande à maman, as-tu des papiers car tu peux toucher des sous de la déportation. Donc elle monte dans le deuxième grenier Et elle redescend et elle me donne un passeport. « Maman, c'est pas ton nom !» Elle me donne un passeport CCP, donc l'Ukraine était russe, avec un nom russe. Je dis « Mais... » Elle me dit « Ma chérie, si j'avais pas changé ton nom, nous serions toutes les deux mortes dans les camps et gazées. »
Et ça, ça vous a bouleversé, évidemment.
Bouleversé, oui et non. Ça m'a plutôt réconforté dans le sens où le secret se dévoile. Mais compte tenu que j'avais déjà été butinée chez les évangéliques, chez les juifs et surtout chez les libéraux, et que je savais que j'étais née en déportation, donc je savais qu'il y avait quelque chose. Mais là, c'était une signature.
Aujourd'hui, le vrai passeport de votre mère, qu'elle a récupéré en 1972 lors d'un voyage en Ukraine, ce passeport, vous le conservez précieusement.
Oui, parce que son nom, je suis la seule à le connaître, donc c'est un cadeau. Et tous les documents de la déportation iront donc au mémorial de la Shoah à Paris. Et surtout ce matin, j'ai eu un très beau cadeau. Il existe les archives des nazis donc en Allemagne. Je me suis inscrite et ce matin, j'ai eu un document prouvant son passage au camp de Düsseldorf. Et l'histoire s'écrit, elle se confirme et je suis juive, enfant caché de la Shoah et je le dirai jusqu'à la fin.
Après la libération des camps nazis, vos parents sont arrivés en France, à Limoges plus précisément. Puis ils sont rapidement partis là où on avait besoin de main-d'œuvre. Ils se sont installés à Saint-Vulbas et votre papa a travaillé à Pont-de-Cheruit. À l'âge de 12 ans, vous ignoriez votre judéité. Et là, il s'est produit deux événements que vous n'avez pas vraiment appréciés. Le premier, c'est que vos parents vous ont envoyé en pension au collège Sainte-Marie en Berrieux. Et là, qu'est-ce qu'il s'est passé?
Eh bien, la boche, puisqu'on m'appelait la boche toute petite à l'école, je ne savais pas pourquoi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Pour aller à Sainte-Marie, il fallait être baptisé. Donc le curé, à l'âge de 12 ans, me baptise. Rendez compte, à 12 ans, debout, avec des prières, de l'eau sur la tête et surtout les moqueries des gamins du catéchisme.
Oui, c'est ça. Vous vous êtes sentie méprisée.
Méprisée, puis surtout l'incompréhension. Vous savez, Kadosh disait, donc le rabbin de Marrakech, dit « Madame, ne vous occupez pas de la religion. Vous étiez des millions comme ceci. Écoutez la petite voix. La petite voix ne vous trahira jamais. »
C'est joli. Et la seconde chose déstabilisante pour vous, c'est que votre maman a cessé de vous appeler Anouchka. Lorsque vous aviez 12 ans, et vous vous êtes appelée Agnella.
Ben, c'est-à-dire, Anouchka, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est ukrainienne, matryoshka, Anouchka, c'est l'amour de ma mère. Mais à 12 ans, vous partez en pension, donc on réécrit Agnella, Kotsama. Et c'est la séparation, c'est vivre en pension, ensuite c'est l'école, enfin bref, voilà.
Oui, vous avez poursuivi vos études et préparé un CAP de sténodactylo à Bourg, à Saint-Joseph, et diplôme en poche. Vous êtes parti chercher du travail sur Lyon. Là, plusieurs employeurs ont d'emblée rejeté votre candidature, mais pourquoi ?
Eh bien, je découvre un mot que je ne connais pas, apatride. Je ne sais pas ce que ça veut dire, apatride. Je sais qu'une chose, c'est que j'ai un carton jaune. Oui. Alors je dis, je n'ai pas porté l'étoile jaune, mais j'ai le carton jaune. Et ce carton jaune, c'était un document d'apatride qui m'obligeait à aller en préfecture pour faire tamponner. Donc, ce document-là, je devais le fournir en tant qu'identité, comme une carte d'identité, aux employeurs. Et chaque fois, c'était un refus. Sauf Serge Martin, à qui je me présente et je me mets à pleurer parce que je lui dis « Quand je vais vous donner ce carton, vous n'allez pas m'embaucher. » Je lui donne le carton, il me dit « Vous commencez lundi à 8h ».
Et justement, vous avez travaillé sur Lyon pendant un certain temps. Et à l'âge de 57 ans, vous êtes venu vous installer sur Bourg. Que s'est-il produit lorsque vous êtes passé devant Saint-Joseph, rue du lycée, là où vous aviez préparé votre CAP?
Eh bien, rue du lycée, je vois une religieuse. Je lui tape sur l'épaule et je lui dis « Est-ce qu'il reste des religieuses ?» Elle me dit « Oui, il reste sur Christiane, il sort et sur Cécile. » Alors, on traverse toutes les deux la rue, je vais dans le bureau de sœur Christiane, j'enlève mes lunettes, je la regarde. Elle me dit « Agnella Kokaba ».
Comme ça, elle vous a reconnue tout de suite.
Je dis « Mais comment pouviez-vous vous rappeler de moi après tant d'années ? Savez-vous que j'étais juive ?» Elle me dit « Oui ».
En tout cas, votre mère lui avait confié que vous étiez juive.
Oui.
Alors, j'aimerais maintenant que l'on parle un peu de Nicolas, votre père. Quand vous étiez petite, que vous disait-il lorsqu'il vous grondait?
Il disait « Anouchka, toi et ta maman, je ne vous ai jamais abandonnée. Lorsque je suis sortie des camps, je vous ai cherchée pendant 11 jours. Jamais je vous ai abandonnée. »
Et c'est même pour vous retrouver qu'un jour il s'est sauvé. Et justement, quand vous étiez à Saint-Vulbas, parfois le maire de cette commune venait chercher votre père pour creuser les tombes dans le cimetière. Et pourquoi est-ce que c'était si douloureux psychologiquement pour lui ?
Tout simplement parce que à chaque retour de ce cimetière où il avait creusé une tombe, il reparlait à Nina, donc en ukrainien, mais moi c'était ma langue maternelle, donc je comprenais ce qu'il disait. Il disait que chaque fois qu'il creusait cette tombe, il se rappelait de la tombe qu'il avait creusée en Allemagne.
C'était sa propre tombe.
C'était sa propre tombe. Il devait être fusillé à 15h et je suis née à 15h10.
Pas le même jour.
Pas le même jour, non. Et toujours, il se rappelait donc la douleur de creuser sa tombe parce qu'il devait être fusillé. Il a compté 57 prisonniers, dont 57 trous.
Et chaque prisonnier a creusé sa propre tombe.
Oui. Et sans doute, c'est pour ça que toujours il disait qu'il nous a jamais abandonnés, sachant qu'il avait Anouchka et Nina retrouvés, c'est sauvé.
Il s'est
et
sauvé.
Merci Nicolas.
Oui, et vous avez pu venir habiter tous ensemble en France. Ce n'est qu'à l'âge de 56 ans que vous avez eu la confirmation de votre identité juive. Par contre, dans votre jeunesse, vos parents vous ont parfois raconté par bribes votre naissance en Allemagne. Il faut dire que vous leur posiez beaucoup de questions aussi. Hein.
Il est normal parce que lorsque vous avez deux qualificatifs, la Bosch, l'apatride, née en Allemagne, et puis il ne faut pas oublier que maman est écrivain public, elle avait toute la communauté ukrainienne, Pologne, de l'Isère qui venait avec des lettres et c'est maman qui répondait. Donc, j'étais au courant de toutes leurs histoires, leurs secrets.
Donc, elle vous a dit que vous étiez née en Allemagne ?
Il n'y avait pas besoin de le dire. Moi, j'avais toujours une... à l'âge de mes 20 ans, Nina m'a donné mon certificat de naturalisation. Donc, je devenais française. Donc, le mot « Bosch » et « immigré » et tout ça, ça s'est effacé d'un seul coup avec mes papiers français.
Quand vous êtes née, votre maman, elle vous a caché et elle venait vous nourrir toujours à l'insu de tout le monde.
Alors, maman était donc dans le camp de Düsseldorf, ça a été confirmé ce matin par les archives et surtout les documents que j'ai à ma possession. Mmh. Et elle sortait de ce camp pour aller travailler dans une ferme. Et elle m'a caché dans une cave et toujours elle disait... j'allais te nourrir en douce et tu ne pleurais pas. Et lorsque les camions américains Ils ont libéré pour partir en France. Elle m'a caché sous ses jupes. Elle disait, tu ne pleurais pas. Toujours, elle disait, tu ne pleurais pas.
En 2009, vous aviez 65 ans et vous avez fait une rencontre capitale parce qu'elle a débouché sur la rédaction d'un livre.
Eh bien, tout simplement, décembre 2009, j'achète la librairie Montbarbon, je ne fais pas de publicité, hein, le livre « Une vie » de Simone Veil. Et je lis « Bergen-Belsen ». Ce mot, ça me disait quelque chose. Je prends une de mes aquarelles, puisque je peins. Je lui envoie une aquarelle qui s'appelle « Racines et feuillages ». Et je lui rédige cette carte. Et je lui dis, avant de cacher l'enveloppe, j'ai dit, accepteriez-vous de me recevoir? Sans y croire, et je poste l'enveloppe. Deux semaines après, à 18h, je regarde la télé, j'entends le téléphone. Agnella Kokaba? Oui, madame. Simone Veil à l'appareil, je fais. Et elle me parle comme une amie. Elle me dit que mon aquarelle est très belle. Et elle me donne le téléphone de son assistante pour... que je rencontre. Donc, deux semaines après, j'étais dans son bureau à Paris.
Et que alors, s'est-il passé donc, dans ce bureau?
Eh bien, j'ai partagé avec elle ce que vous avez dit de Boris, cette colère du silence de ma mère. Parce que j'étais en colère. Et elle m'a apaisée. Elle me dit, madame, chez nous, on n'a jamais parlé de la déportation. Donc, le silence. Donc, elle m'apaise. Je lui demande une dédicace, une photo. Et on savait qu'on ne se reverrait pas, mais elle me dit, madame, vous avez un devoir de mémoire. Alors je réponds, je suis une artiste farfelue, mais je ne suis pas écrivaine. Elle me dit, vous avez ce devoir de mémoire. Donc j'ai fait une promesse à Simone Veil, à Nina et Nicolas. Et
cette promesse, c'était d'écrire ce
bien,
livre.
Le livre est fini, il s'appelle « Mémoire Matryoshka ». Tout ce que vous avez entendu, c'est dévoilé dans ce livre, mais avec des documents. Et aussi une grande partie... des Slaves. Pourquoi? Parce que maman était écrivain public et j'ai écrit l'histoire de chacune de ses familles.
Et donc ce livre, il n'est pas encore publié?
Je cherche un éditeur.
Ah bien, écoutez, j'espère que vous en trouverez un rapidement. En tous les cas, ce livre existe. Il vous a aidé à affirmer votre identité juive que vous avez également consolidée en peignant des chandeliers à 7 et à 9 branches.
Oui, alors les menorahs, c'est 7 branches. Les hanoukas, c'est 9 branches. Donc, si vous voulez, j'ai donc peint, puisque je n'ai jamais fait les beaux-arts. Hein, c'est un don que j'ai. Je suis autodidacte dans la création. Mais j'ai peint Moïse. J'ai découvert qu'il y avait des violonistes à Auschwitz, donc j'ai fait des violonistes à Auschwitz. J'ai écrit mon nom en hébreu, Kohava, en fer forgé, en marche. Donc c'est pas Macron, hein, c'est moi qui ai créé en marche, avec une menorah. Et donc il y en a 62.
62 aquarelles.
Aquarelles qui sont devenues 62 menorahs. Donc elles ont toute une histoire, et surtout elles sont en fer, en pierre, en maïchor, en vitrail. Et ça ne sera pas un deuxième livre catalogue, ça sera Mon identité et Ménora.
Alors, pour finir, pour les 80 ans de votre papa, Nina, votre maman, vous a fait un beau cadeau.
Tout à fait. Donc, à Saint-Vulbas, nous allons donc au centre de loisirs. Et nous avons ici à Bourg un pasteur qui s'appelle Fauvel et qui avait un groupe de danse d'Israël. Donc, je l'invite et le groupe de chanteurs de chants d'Israël chante un chant en yiddish. Donc, moi, je m'approche et maman me suit. Et c'est la première fois que je l'entends chanter en yiddish. Donc, elle a signé cette identité juive.
Oui, elle a signé cette identité. Et on peut même supposer qu'elle n'avait enfin plus peur. Merci, Anouchka Kokaba, de nous avoir fait partager votre vie si singulière.
Eh bien, écoutez, merci de m'avoir fait témoigner. Mais c'est surtout pour Simone Veil, Nina, Nicolas.
avec une quinzaine de jours d'avance, je vous souhaite un joyeux anniversaire, puisque vous êtes né un 29 février et que cette année, vous avez de la chance. Le mois de février compte 29 jours et non 28. Rendez-vous avec vous, c'est terminé. Merci à tous et à bientôt.